Son originalité, d'abord, elle l'est au niveau des motifs, puisqu'effectivement, c'est poussé par la contrainte budgétaire que la France et le Royaume-Uni ont décidé de s'engager dans un renforcement qui est effectivement sans précédent en matière de coopération militaire, notamment dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Précisément, sur ce domaine-là, il est assez intéressant de voir que, à partir de 2014, ces deux pays pourront simuler un fonctionnement de l'arsenal nucléaire en laboratoire en Bourgogne, ce qui ne signifie pas pour autant l'abandon de leur souveraineté nationale dans ce domaine.
Est-ce que Londres et Paris peuvent devenir le moteur de l'Europe de la défense ?
Cet accord-là a bien évidemment une dimension européenne. La façon dont il va s'intégrer dans le reste du dispositif institutionnel de l'Union européenne reste une question ouverte. Ce qui est évident néanmoins, c'est que cela va avoir un impact sur la façon dont l'Union européenne va désormais devoir appréhender et développer sa stratégie européenne en matière de sécurité et de défense.
Est-ce que la crise économique qui oblige à des économies, à des restrictions budgétaires, peut favoriser ces rapprochements bilatéraux entre différents pays sur les thèmes de la défense ?
Je crois que l'accord franco-britannique brise un tabou, celui de partir du point de vue que les dépenses militaires sont incompressibles. Il y a là une réalité, un principe de réalité qui fait que dans une situation, dans un contexte économique difficile, deux États, deux puissances nucléaires sont capables, de façon tout à fait innovante, de poser le problème sur la table, à savoir la question de la contrainte budgétaire, pour, sur ce point-là, développer une coopération qui est une solution qui, effectivement, pourrait être étendue à d'autres États, pourquoi pas.
Alors la France et la Grande-Bretagne vont créer une force expéditionnaire conjointe, mais souvent leur diplomatie diverge, par exemple en ce qui concerne la guerre en Irak. Comment est-ce que cette force pourra réellement être effective ?
Cette force de 5000 hommes va être un élément qui va très certainement contraindre les autorités françaises, mais aussi britanniques, à développer une culture commune en matière stratégique. Et les différences, je pense, persisteront malgré tout sur certains enjeux de politique étrangère et de sécurité, mais le fait de disposer désormais à l'avenir de ce type de force expéditionnaire va très certainement amener à rapprocher les positions, en tout cas à favoriser peut-être un dialogue lorsque de grandes questions seront posées, comme ce fut le cas au niveau de l'Irak il y a quelque temps.
La France et la Grande-Bretagne sont les deux principales puissances militaires européennes. Sans ces deux pays, rien ne peut être fait sur ce dossier-là.
Chaque État participe à l'effort européen commun en fonction de ses moyens et de son engagement politique. Encore une fois, le terrain en Irak et en Afghanistan a démontré que les États européens y sont allés en ordre dispersé, et ce, sans respecter forcément l'équilibre des forces entre les États. En d'autres termes, la France ou la Grande-Bretagne n'ont pas réussi à donner le « là » et à imposer une stratégie. Ils sont arrivés avec des stratégies opposées sur la question de l'Irak, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, cela va changer, mais plus il y a de rapprochement, plus il y a d'éléments qui amènent à renforcer la coopération, plus, je crois, les différends peuvent s'estomper. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès du projet européen par une approche sectorielle sur le charbon et l'acier. Je crois que le domaine militaire n'échappe pas non plus à cette logique fonctionnaliste qui peut effectivement améliorer et coordonner les positions sur les questions de sécurité et de défense.